remporté les élections avec seulement un tiers des voix lors d'un scrutin dans lequel seulement un quart des 93 millions d'électeurs inscrits ont voté. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Merci beaucoup Gilbert. Alors pour débattre de tout cela, nos invités. D'abord à Douala, au Cameroun, Michel Lobé-Ewane. Vous êtes ancien rédacteur en chef de Forbes Afrique, journaliste, et vous connaissez bien le Nigeria. À Lomé, Louis Magloire Kemayou, vous êtes directeur de New World TV Économie. Et à Paris, Cédric Abba, chercheur au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes également spécialiste du Sahel. Je vais démarrer avec vous, Michel. Au lendemain de l'investiture de Bola Tinubu, les Nigérians se sont rués vers les stations-service, hein, puisque l'une des premières annonces du nouveau président, c'est un peu la fin des subventions sur le carburant. Est-ce une manière de démarrer son mandat?
Mais c'est un point très important parce que, effectivement, le Nigeria, depuis plusieurs dizaines d'années, subventionne son pétrole, le pétrole qui est consommé localement, alors qu'il est un des premiers producteurs africains. Et Bola Tinubu s'est engagé à supprimer ces subventions. Il est évident que c'est une décision qui aura des conséquences importantes pour l'État. Ça fait les finances publiques qui sont lourdement impactées par ces subventions. Il a un argument qui peut lui permettre d'aller dans cette direction, qui ne sera pas certainement fait tout de suite. C'est que le Nigeria, à travers l'homme d'affaires, le milliardaire
Dangote,
vient d'inaugurer la plus grande raffinerie d'Afrique qui va pouvoir transformer et donc à produire sur le marché local les produits que le Nigeria, producteur de pétrole, importait. D'accord. Est-ce que ça va avoir un impact? Je pense qu'il faut s'y attendre, mais techniquement, ce ne sera pas demain, ça prendra peut-être un an ou deux ans avant que le Nigeria puisse effectivement trouver un équilibre et que l'État applique cette décision de supprimer les subventions.
Alors, Louis Magloire fait annoncer des subventions sur le carburant, taux d'inflation élevé. Bola Tinubu peut-il redresser l'économie nigériane? Sinon, quel peut être le risque pour les pays voisins et également de la région?
Je pense que le président nigérian va probablement avoir à cœur de redresser l'économie de son pays pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que au sein de la CDAO, qui est quand même où le Nigeria représente plus de la moitié de la population et qui représente également plus de 70% du PIB, il est important que le Nigeria reprenne toute sa place et qu'il soit une locomotive pour les pays de la CDAO, mais également pour tous ses voisins, le Cameroun, le Tchad, ainsi que le Niger qui fait partie de la CDAO. Et ce sera de cette manière-là que le Nigeria reprendra sa place également dans les grands débats économiques de ces régions-là. La question de l'écho qui devait remplacer le franc CFA reste une question à laquelle on n'a pas trouvé de réponse définitive concernant la date d'émission de cette monnaie. La question également de la prise de parole du Nigeria en tant que premier leader de l'économie africaine reste entière. Et ça, ce n'est pas uniquement par rapport à sa position, c'est également dû au fait que pendant de très nombreuses années, durant les années Buhari notamment, le pays s'est renfermé sur lui-même et n'a pas pris toute la dimension de son rayonnement économique pour intervenir. On parlera probablement de la diversification économique, mais au cinéma, par exemple, est très rayonnant. La diversification a commencé, les nouvelles technologies commencent à être un grand axe de développement de l'économie du Nigeria, mais cela n'a pas permis au pays d'avoir la voix qui aurait dû être la sienne sur la scène africaine et sur celle de la CDAO en particulier.
D'accord. Alors, Sédi Kaba, l'économie, le développement et la sécurité sont intimement liés. Est-ce qu'on doit comprendre l'incapacité du pouvoir sous Buhari à contenir Boko Haram et les groupes armés qui opèrent dans les autres parties du pays?
Je crois que pour évaluer avec justesse et rigueur le bilan de Buhari en matière de sécurité, il faut regarder de là où on est parti. Lorsque le président Buhari prend le pouvoir en février 2015, Boko Haram était à son apogée presque. Le mouvement était capable de porter des opérations complexes de grande envergure contre l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad. Et c'est juste avant l'arrivée du président Buhari que le mouvement s'est exporté au Niger, s'est exporté au Tchad, s'est exporté au Cameroun. Buhari, en arrivant au pouvoir, a permis la création de la force mixte multinationale dont le commandement général se trouve à N'Djamena. Et cette force mixte multinationale qui comprend 4 secteurs, chaque secteur correspondant à un pays, le secteur 1 à Maroua, le secteur 2, le secteur 2 dans le lieu du lac, le secteur 3 à Mongouno, à côté de Maïdougouri, le secteur 4 à Difa. Donc cette force mixte multinationale a obtenu des résultats. Ces résultats sont sans doute insuffisants. Et à mon avis, à l'heure du bilan de Buhari en matière sécuritaire, c'est plus cette industrie du kidnapping, du banditisme armé qui s'est développée que Boko Haram qu'il faut craindre. Et c'est ce défi-là que le nouveau président doit affronter tout en continuant à travailler avec les voisins du Nigeria pour éradiquer ce qui reste encore de Boko Haram, puisque le mouvement est encore actif. Il lui faudra regarder sur cette montée en puissance du banditisme armé dans l'état de Zamfara particulièrement. Et on sait que peu après cette investiture-là, la menace, cette menace est venue jusqu'aux portes d'Abuja, puisque le train express qui relie Kaduna à Abuja a été intercepté par des bandits qui ont pris certains passagers en otage et qui ont exigé de la rançon. Donc c'est sur ces deux leviers importants que le président Tinubu doit continuer à travailler avec ses voisins et doit réorganiser les services de sécurité, les services fédéraux de sécurité, le renseignement, la défense et les autres forces pour obtenir une meilleure efficacité.
Alors Michel, vous en parliez, je crois, tantôt, juste avant son départ, le président Buhari a inauguré la raffinerie de Dangote, le pays n'ayant pas de grosses capacités de traitement et donc importe beaucoup de produits pétroliers finis. Comment est-ce que le Nigeria peut-il renverser cette tendance et comment est-ce que ça peut profiter aux autres pays voisins, notamment d'Afrique de l'Ouest, mais également de l'Afrique centrale ou de pays comme le Cameroun?
Oui, moi je pense que c'est une question clé dans la façon dont le Nigeria va véritablement impacter par sa position de leader économique, son économie déjà et les économies voisines. Tinubu a dit qu'il va privilégier, il va donner une priorité au secteur privé. Il est servi par cet investissement de Dangote. On l'a vu aussi très efficace dans le relèvement des recettes fiscales lorsqu'il était gouverneur de Lagos. Il a mis en place une technologie qui permet donc d'utiliser les nouvelles technologies justement pour lutter contre la déperdition des flux et des entrées des recettes. Est-ce qu'il va l'appliquer? On pense que ce serait très positif que l'État ait plus de recettes. Ce serait positif que l'État aussi crée des emplois. Qui veut créer des emplois? C'est le secteur.
La diversification dont parlait Louis Gloire tout à l'heure.
Voilà, Mandarui, la diversification. Et cette diversification, ce n'est que les acteurs privés qui peuvent l'apporter, à condition que le climat des affaires soit meilleur et que, par exemple, au niveau des devises, il y ait une meilleure adéquation du Naira avec les devises étrangères, notamment le dollar.
Louis Magloire, avec son statut de deuxième producteur de brut maintenant en Afrique, derrière l'Angola, le privé nigérian, justement l'un des plus puissants du continent, est-ce qu'il peut aider le pays à être moins dépendant de l'extérieur en termes de produits pétroliers bruts, traités?
Oui, je crois que c'est quelque chose de très important parce que nous sommes quand même dans un contexte qui est celui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a montré à quel point il est important aujourd'hui en termes d'approvisionnement que les pays africains soient autonomes, d'abord en termes d'engrais, mais également en termes de produits pétroliers. Et le Nigeria, qui est un grand producteur, n'est pas un grand raffineur. Et s'il y a cette possibilité-là de raffiner sur place et donc de vendre moins cher au Nigeria et dans les pays voisins, il est certain que cela aura un impact positif sur les économies des pays concernés, et à commencer par, ce, par l'économie du Nigeria.
Absolument. Alors, Sédic, vous avez écrit un livre « Voyage au cœur de Boko Haram » et le président Tinubu prévoit l'utilisation de bataillons antiterroristes avec des forces spéciales pour aller à l'assaut des kidnappeurs. Et vous en parliez, la nouvelle menace, en tout cas, elle n'est pas nouvelle, mais en tout cas, elle s'est étendue dans plusieurs régions. Comment le Nigeria peut-il vaincre ou du moins affaiblir ces groupes?
Je crois que l'une des bonnes nouvelles pour cette période, c'est la présence d'un ressortissant du Borno, le vice-président Chetima, qui a été gouverneur de l'État du Borno et qui connaît cette problématique du bout du doigt pour avoir été en poste pendant de nombreuses années à la tête de l'État fédéré du Borno. Et cette connaissance de la matière, plus aussi le fait que le gouverneur actuel du Borno, le professeur Zulum, soit très engagé dans la lutte contre Boko Haram, et avec une meilleure articulation au niveau fédéral, on peut obtenir davantage de résultats, même s'il restera toujours important de coordonner la lutte contre Boko Haram avec les voisins du Nigeria. Vous savez, la lutte contre Boko Haram a beaucoup parti des actions en solo. Par exemple, on sait que lorsque le président Idriss Déby avait mené l'opération Color Reboisement en mars 2020, il a obtenu de bons résultats, mais le fait qu'il n'y ait pas eu une coordination avec les autres pays a fait que certains se sont évadés. Donc le fait aujourd'hui qu'on puisse avoir des unités dédiées à la lutte contre le terrorisme, plus aussi le fait qu'on puisse avoir des unités spécialement dédiées à la lutte contre l'industrie de l'enlèvement et cette économie qu'elle a générée, sont des natures à favoriser justement l'obtention de meilleurs résultats, à condition qu'on prenne aussi des mesures contre toute la corruption que cela a pu générer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à ce que cela se poursuive. D'accord. Parce que ça leur profite, les intermédiaires, les bénéficiaires, etc. etc.
D'accord, alors on va lire quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit que la démocratie nigériane doit inspirer certains pays francophones ouest-africains, car la limitation des mandats à deux est bel et bien respectée. Le président Bola Tinubu a certainement pris la mesure des tâches qui l'attendent et il est tenu d'une obligation de résultat se traduisant par la relance économique et la sécurité des biens et des personnes, anéantissant un peu la capacité de nuisance de Boko Haram, même s'il souhaite renouveler son mandat après 4 ans. Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Nous saluons le maintien du respect des mandats à la différence des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, ce qui signifie que sur ce plan, il y a des progrès. Cependant, il y a un recul au niveau de la transparence du déroulement des élections et de la publication des résultats. Et puis Charles Bazema à Ouagadougou nous dit que le Nigeria ne peut jamais être un leader en Afrique car nous sommes divisés et le Nigeria n'est pas un exemple dans la gestion de la chose publique, corruption, malgouvernance, KBJ, etc., dit-il. Voilà, merci de rester fidèle de la VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Si vous êtes toujours sur Washington Forum, et je rappelle nos invités, à Douala, Michel Lobé-Ewane, ancien rédacteur en chef de Forbes Afrique, à Lomé au Togo, Louis Magloire-Kumayo, directeur de New World TV Economy, Et puis à Paris, Cédric Abar, chercheur au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique de l'Université de Québec à Montréal. Alors, Michel, vous êtes à Douala, la capitale économique du Cameroun. Alors pourquoi la situation aussi bien économique que sécuritaire du Nigeria doit intéresser des pays voisins, le Cameroun, le Tchad?
Eh bien, les pays voisins du Nigeria ont une relation économique intense, très très forte avec le Nigeria sur de nombreux secteurs. Déjà sur le plan informel, de l'économie informelle, tous ces pays sont inondés par des produits qui viennent du Nigeria, qui sont souvent des produits de très bon prix, souvent aussi à beaucoup de contrefaçons, ça c'est un problème. Également, le Nigeria est un grand marché. On a vu, par exemple, pour le Bénin, il y a quelques années, le Bénin a été quasiment étouffé parce que le Nigeria a fermé les frontières aux voitures qui sont importées en passant par le port de Cotonou. Et ça a été un très grand problème. Ça prouve que le Nigeria, c'est un marché. D'autre part, on observe une vraie, sur un plan de l'économie formelle, une offensive des groupes nigérians, les banques notamment. Les banques comme UBA, comme Axis Bank, comme d'autres banques sont des acteurs aujourd'hui importants dans l'économie sous-régionale. Je ne parle pas du groupe Dangote qui, sur le plan de l'industrie de la cimenterie, mais qui bientôt dans le domaine du pétrole va être présent. Donc c'est un acteur incontournable qui impacte ces économies dans...
Mais est-ce que le Nigeria, Michel, le Nigeria joue-t-il vraiment son rôle de leader?
Non, non. Je pense que les années Buhari ont été des années où on a observé que le Nigeria a fait preuve d'une grande timidité sur le plan diplomatique, politique et diplomatique. Offensive des acteurs privés, timidité des acteurs politiques. Le Nigeria n'a pas été le leader qu'il a été pendant les années Obasanjo, par exemple. On a l'impression que le Nigeria s'est retraité, s'est repositionné en interne. Alors que les défis sécuritaires qui touchent tous ces pays, Abbas Sidik a parlé de Boko Haram, sont des défis où le Nigeria devait être le leader et il ne l'a pas été. Il aurait dû conduire. Et je pense que sur les questions économiques également, on n'a pas senti. On l'a vu par exemple avec la timidité également sur le front de la monnaie commune où le Nigeria a baissé les armes.
D'accord. Et lui, Magloire, justement, sur le plan régional, quel est l'enjeu et quelles sont les attentes pour le nouveau président Tinubu? Qu'est-ce qu'il faut attendre de lui, en tout cas, pour que le Nigeria joue son rôle de leader?
Si on s'en tient aux prévisions, le Nigeria devrait, dans les années 2040-2050, doubler sa population, c'est-à-dire passer de 200 à près de 400 millions d'habitants. Cela représente à la fois un marché en termes de débouchés pour les pays voisins, mais également cela représente une vraie puissance sur le plan démographique et donc économique aussi pour les différents pays qui entourent le Nigeria. Et c'est en cela qu'il est important aujourd'hui que le Nigeria, au-delà de ce qu'il pèse déjà sur les économies des pays voisins, apporte quelque chose de plus. Sur le plan du digital, par exemple, il a franchi une très grande étape en passant devant le Kenya et les pays d'Afrique de l'Est qui, pour le moment, avaient le vent en poupe sur ce terrain-là. Il a son industrie du cinéma qui porte également. Il a Lagos, qui est quand même l'une des plus grandes métropoles d'Afrique subsaharienne, voire d'Afrique tout court. Et ce rayonnement-là, pour le moment, reste malheureusement très contenu. Et l'on ne parle que des difficultés sur le plan sécuritaire, voire de l'incapacité pour le Nigeria aujourd'hui de porter sa voix sur la scène et régionale et africaine. Pourtant, encore une fois, il s'agit de la première économie du continent africain. Donc, le Nigeria, de mon point de vue, devrait être l'Allemagne de l'Afrique de l'Ouest, voire l'Allemagne de tout le continent africain. Et c'est le rôle qu'il ne sait pas encore, dans le costume duquel il n'est pas encore complètement entré. Espérons qu'avec ce mandat, ce premier mandat du président nouvellement élu et investi, le Nigeria entrera complètement dans son costume de leader de l'économie africaine.
Alors c'est dit que justement je vous pose un peu la même question, comment le Nigeria peut-il continuer ou tirer en tout cas la locomotive CDAO aussi bien sur le plan sécuritaire, économique que diplomatique?
Non, sur le plan du leadership régional, on a même enregistré un recul. On se souviendra que le Nigeria avait été quand même le leader de cette région au point de monter l'opération Okomok pour défendre la démocratie en Sierra Leone et au Libéria il n'y a pas longtemps. Et ce leadership, comme il a été rappelé, a été très bien joué pendant les années Obasanjo. Ensuite, il y a eu un petit recul avec ceux qui lui ont succédé et puis un grave recul avec les années Buhari dont la lecture était une lecture un peu nationaliste qui considérait que c'était le Nigerian first, que c'est les intérêts du Nigeria et des Nigériens qui devaient passer avant les intérêts de la sous-région, au point où le président Buhari, pour protéger la culture du riz au Nigeria, a formé la frontière avec le Bénin et le Niger pendant une longue période, ce qui était contraire aux dispositions, aux accords de la CEDEAO, mais les autres pays n'ont pas donné de la voix et se sont accommodés de cette entorse que le Nigeria a fait. Je pense que le président Tinubu, ayant lui-même vécu, même si c'est un peu anecdotique, pendant une période en exil, a une approche beaucoup plus ouverte sur l'international que le président Buhari. Et ça peut être un facteur qui va l'amener à reprendre ce rôle de leadership que le Nigeria a assumé. On sait que le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine est un Nigérien. Donc, avec cette possibilité pour Nigeria de retrouver non seulement le leadership sous-régional, mais d'avoir de la voix et de la présence au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation de l'Union africaine, tout cela me semble être porteur d'un changement, d'un basculement par rapport à la période Buhari.
D'accord. En tout cas, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, mais j'aimerais rapidement qu'on aborde cette question de la fuite des cerveaux. Le Nigeria, étant l'un des pays africains les plus diplômés, mais il fait face à cette fuite des cerveaux sans précédent, notamment dans le domaine de la santé. Michel, comment y mettre fin? Faut-il s'en inquiéter?
J'avoue que je ne m'en inquiète pas tant que ça, parce qu'il y a, c'est vrai, une fuite des cerveaux, mais il y a aussi eu, il faut le noter, ce qu'ils appellent le phénomène des retournées, c'est-à-dire la diaspora qui revient. Et la diaspora nigériane, il faut le dire, elle est extrêmement dynamique. Et elle est, de mon point de vue, c'est elle qui explique ce qu'on peut appeler aujourd'hui le soft power nigérian dans le domaine de la culture, on a vu dans le cinéma, mais dans le domaine de la musique également. Mais au-delà, et y compris dans les nouvelles technologies. Moi, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la diaspora nigériane, elle est présente d'une façon ou d'une autre. Financièrement, elle est présente stratégiquement, elle est présente économiquement, et elle construit le soft power, et elle donne aujourd'hui une image plus positive du Nigeria que le Nigeria lui-même. Et elle contribue justement, à façonner.
C'est un point très intéressant. J'aimerais donner 30 secondes peut-être à Luma Gloire sur cette question de la fuite des cerveaux.
Oui, on peut s'en inquiéter par moment, mais le fait est qu'on n'est pas obligé d'être tous dans nos pays respectifs pour apporter notre contribution. On a vu avec la question, par exemple, de la crise sanitaire, que beaucoup de pays avaient souffert du fait que leurs ressortissants à l'étranger ne pouvaient plus apporter leur contribution au développement à travers les devises qu'ils envoyaient dans leur pays. Et donc, je pense que cette contribution-là également, elle vaut son pesant d'or, pour reprendre l'expression consacrée. Et hormis cela, aujourd'hui, avec la capacité pour le Nigeria d'avoir une diaspora très active à l'étranger, il y a une certaine forme de rayonnement culturel, sportif, et aussi du cinéma et de la musique, qui font que les rentrées d'argent que rapportent ces activités faites par des Nigérians, tant basés au Nigeria qu'à l'extérieur, c'est une véritable contribution des.
Nous sommes obligés d'arrêter ici un débat à suivre. C'est la fin de ce Washington Forum. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site VOA Afrique, sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.